Radio Okapi.
Le journal, c'est avec Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, au Nord Kivu, une accalmie est observée ce lundi matin sur différentes lignes de front dans les territoires de Masisi, notamment autour de Sake. Selon plusieurs sources de la région, les éléments du M23 n'ont pas été visibles dans certaines entités qu'ils avaient déjà occupées dans ce territoire. À 4 jours de la fin des opérations d'enrôlement des électeurs en Ituri, on observe un grand engouement ce lundi dans plusieurs centres à Bunia. Chaque requérant veut absolument obtenir sa carte, malgré certaines difficultés liées à la panne des machines qui entraînent des perturbations et des retards dans certains centres. L'invité de ce journal est le coordonnateur du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs mises à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi transforme au Kasaï oriental. Alexis Mangala explique l'importance de ce projet ainsi que les critères de sélection des bénéficiaires de son appui financier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, une accalmie est observée ce lundi matin dans les différentes lignes de front dans le territoire de Masisi, notamment autour de Sake. Selon plusieurs sources dans la région, au lever du jour, ce lundi, les éléments du M23 n'ont pas été visibles dans certaines entités qu'ils avaient déjà occupées dans ce territoire. Les causes de ces retraits sont diversement commentées. Détail avec Blaise Sindani.
Dans la chefferie de Bachali, les rebelles du M23 ont quitté la localité de Mouesso vers 0h cette nuit, amenant avec eux leurs malades qui étaient internés à l'hôpital de Mouesso, ainsi que quelques membres de communautés civiles dévoués à leur cause. Ils se répartis à Kichanga, alors que d'autres éléments se repositionnaient à Muongozi, Busumba et Kirumbu aux alentours de Mouesso, affirment ses sources. Elles ajoutent que ce matin, ce sont les Mai Mai et les Nyatura qui viennent encore d'investir Mouesso et quelques autres villages proches. Ces combattants locaux ont tiré des coups de feu lors de leur entrée dans ces positions abandonnées par les rebelles. Autour de Sake, les rebelles du M23 ne sont plus également visibles ces matins dans les villages de Karuba, Muremure, Nkingo, Kagano et Kihuli. Rappelons que, dans un communiqué publié samedi 11 mars, ces rebelles soutenus par le Rwanda annoncer leur retrait de ces villages pour permettre aux troupes burundaises de l'EAC de s'y déployer. Nos sources au sein de l'EAC affirment que ce déploiement de Burundais n'est pas encore fait, mais est en cours de planification. Toutes ces sources civiles dans la région redoutent une reprise des hostilités dans ces villages où les rebelles du M23 se retirent et qui sont du coup réoccupés par les groupes armés locaux qui ne sont aucunement liés par les cessez-le-feu impliquant les belligérants gérant direct dans ces conflits.
Nord Kivu encore, 2 jours de deuil ont été décrétés à partir de ce lundi par la société civile de la chefferie de Bachou dans le territoire de Beni. Selon Roger Wangeve, son président, cela est une façon de rendre hommage aux victimes des 2 dernières attaques des ADF dans les villages de Mukondi et de Kirindera. Des attaques qui ont causé la mort d'au moins 50 civils et des dégâts matériels importants enregistrés. La même source indique que les écoles, les centres de santé et pharmacies ne sont pas concernés par ce jour de deuil. Un appel suivi par la population des différentes agglomérations de la chefferie de Bachou renseigne certaines sources sur place. Au sud Kivu, pendant ce temps, 7 personnes sont mortes cette nuit lors d'une incursion menée par des combattants Turaneho Gumino dans les villages de Musika. Des informations font état de plusieurs villages attaqués, dont Musika, Lubilangi et Tusheke, dans les groupements de Basimunyaka Sud, secteur de Lulenge, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi. Des sources proches du groupe armé Mai Mai Bilose Bishambuki affirment que 77 vaches emportées par les assaillants ont été récupérées ce lundi matin après des violents affrontements. Pourtant, les coordonnateurs du groupe Turaneo Kamasa Ndakize rejettent ces allégations et parlent plutôt d'une attaque de la coalition Bilose Bishambuki et les rebelles burundais des Red Tabara sur les villages Rutigita, Macha et Moni. Des détails avec Fiston Goma.
Les 2 groupes armés locaux sont signataires des accords de cessez-le-feu dans le pourparler avec le gouvernement congolais à Nairobi. Ils se rejettent la responsabilité dans cette attaque qui a fait 7 morts à Musika dans le secteur de Lulenge. Les porte-parole de Bilose Bishambuki, Aimable Nabulizi, précisent que les victimes sont 3 enfants calcinés dans 2 maisons incendiées, 2 hommes tués par balles et 2 femmes découpées à la machette après avoir été violées. Les assaillants qu'il identifiait comme Elema Turwaneo ont été repoussés vers Ngandura sur la chaîne d'Irumba et tout toutes les vaches emportées ont été récupérées. De son côté, le coordonnateur du groupe Turwa Neunda, Kise Kamasa, signale dans un communiqué que les assaillants identifiés comme des réservistes Mai Mai Bilozebi Chambouke et les rois de Tabara Burundais en provenance de Moussika se sont heurtés à la patrouille des civils Turwa Neo au moment de l'attaque dans les villages de Rutigita, Masha et Moni. Les Turwa Neo les ont repoussés par deux axes. D'après la même source, jusqu'à ce lundi matin, les combats se déroulaient à Kijombo et aux environs de Moussika, d'où les assaillants sont venus. Le porte-parole de l'armée Aminembo, le sous-lieutenant Jérémy Meyagbe, a rassuré que des troupes loyalistes sont en cours de déploiement vers cette zone et des combats entre groupes armés locaux. Les acteurs de la société civile dans la zone attribuent cette attaque à un groupe d'extrémistes proches du M23 visant à saboter les efforts de cohésion sociale enclenchés par les communautés locales et l'armée. D'Ouvira Fistongo Mamayaba, la Radio Kapi.
En province du Tanganyika, insécurité sous l'axe Kalemi-Moba, d'après le député national qui a fait ce trajet, des villages sont soit incendiés, soit vidés de leur population. Jamanda Kansabala a fait cette déclaration hier dimanche à la radio Kapi. L'élu de Moba précise que cette situation qui date de décembre dernier est le résultat du conflit entre des miliciens Toa et Bantou. Il ajoute que pour traverser cette zone, il faut se faire escorter par des éléments FARDC. Le député Jamanda Kansabala a été joint par Paulé Munanga.
Dans le cadre des vacances parlementaires, j'ai effectué un voyage de Kalemi jusqu'à Moba. Le constat, c'est qu'il y a de l'insécurité terrible. Tous les villages entre Massini, à 95 km de Kalemi, jusqu'à Fatouma, 120 km, ont été incendiés par les pygmées. Sur ce tronçon-là, quand vous trouvez quelqu'un, si c'est un pygmée, sachez que c'est un combattant. Si c'était un bantou, c'est aussi un combattant parce qu'il n'y a personne qui circule là-bas. Et pour y passer, il faut être convoyé par des militaires, vous les prenez à 82 km et vous les laissez à Fatouma. Entre Fatouma et Kambou, 20 km, là aussi, il y a des villages qui ont été incendiés et des villages qui existent encore. Mais dans ces villages-là, qui n'ont pas été incendiés, vous ne trouvez personne. Toute la population s'est repliée vers Kambou. De Kambou à Kabouela, c'est là que vous allez trouver les Bantous. Mais les villages des Pygmées, sur le long de la route, n'existent plus. Ils sont tous concentrés dans la brousse.
Contacter l'administrateur du territoire de Moba confirme l'information. Et le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika souligne la nécessité de se faire escorter par des éléments FARDC pour traverser cette zone. Ituri, à 4 jours de la fin des opérations d'enrôlement des électeurs, on observe un grand engouement ce lundi dans plusieurs centres à Bounia. Chaque requérant veut absolument obtenir sa carte, malgré certaines difficultés liées à la panne des machines qui entraînent des perturbations et des retards dans certains centres. Il plaide pour la prolongation d'au moins un mois d'enrôlement. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI les invite néanmoins à profiter de ces jours restants pour se faire enrôler. Des détails avec Martial Kizabiamungu.
Je suis ici depuis 6 heures et maintenant il est 10 heures. Je ne suis pas encore enrôlé à cause de la lenteur des opérations alors qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Nous a déclaré un requérant rencontré au centre dépôt-ville. C'est lundi matin, des dizaines de personnes ont envahi plusieurs centres d'enrôlement de peur de ne pas obtenir leur carte d'électeur à quelques jours de la fin de l'opération. Ces requérants se patientent et demandent déjà à la Commission électorale nationale indépendante CENI d'envisager une prolongation au risque de perdre, selon eux, le nombre de sièges à Ituri.
Si on augmentait un mois, ça va aider beaucoup de ceux-là qui ne sont pas encore enrôlés. Et puis, d'autres machines tombent à panne. Des fois, s'il y a la pluie, ça ne fonctionne pas.
Si seulement la CENI n'arrive pas à prolonger, au risque de perdre beaucoup de sièges à Ituri.
Le secrétaire exécutif provincial de la CENI précise que seule la plénière peut évaluer la situation et envisager les prolongements ou pas de cette opération d'enrôlement à Ituri.
Pour le moment, aucune décision. Les gens doivent se préparer en fonction du 17 mars. C'est ça le délai parti pour l'enrôlement en Ituri.
La CENI rappelle par contre que tous les jours perdus à raison des pannes de machines seront récupérés. Depuis le centre Épouville, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au sud Kivu, toujours à 4 jours de la date butoir de clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement dans cette zone opérationnelle 2, les requérants se bousculent massivement devant les bureaux ouverts par la CENI. Le secrétaire exécutif provincial affirme que l'opération évolue normalement bien en dépit de quelques difficultés. Toutefois, il se réserve de donner les chiffres des personnes déjà enrôlées depuis le lancement de l'opération le 16 février dernier. Écoutez à ce sujet Gaudens Maéché dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
Nous sommes appelés à enrôler 3 140 000 électeurs ici au sud Kivu. afin que nous puissions garder et consolider notre puissance électorale de troisième place en République démocratique du Congo. Eh bien, c'est notre objectif et nous sommes en train d'y aller. Partout, avec la sensibilisation que nous avons connue, avec l'aide de la société civile, l'aide des médias, avec l'accompagnement des partis politiques, eh bien, vous êtes en train de remarquer qu'il y a encore un grand engouement de requérants devant les centres d'inscription. Cela n'empêche pas qu'on puisse avancer convenablement et les chiffres sont en train de monter au fur et à mesure. Nous sommes en train de nous buter devant un défi temporel. Le temps nous prend par la gorge. Nous avions un mois pour enrôler tous les requérants du site Kivu et nous y allons progressivement. Aujourd'hui, nous approchons un chiffre bien donné que nous ne pouvons donner qu'à la hiérarchie de la commission électorale au siège national.
Identification et enrôlement des électeurs, le député national Amissi Lupia Patrick, en ce jour au Maniema, plaide pour le prolongement de cette opération. Il justifie sa demande du fait qu'il y a des problèmes techniques qui ont caractérisé ce processus dans différents centres d'inscription, ce qui n'a pas facilité l'enrôlement de beaucoup de personnes, et à la CENI de trouver une issue pour ceux-là qui ont des cartes dont les écrits s'effacent déjà. Amissi Lupia Patrick est au micro de Florence Kizalunga.
Il y a eu beaucoup de difficultés au début de cette opération. Beaucoup de machines ont connu beaucoup de pannes, des empreintes, et il y a eu aussi des problèmes sur l'adaptation des opérateurs de saisie par rapport au fonctionnement des machines, ce qui a causé beaucoup de retards. Certaines machines sont tombées en panne. Il fallait les amener de Kumba, par exemple, c'est au moins à 150-200 km de Kindu, pour venir les réparer à Kindu. Et avec la difficulté de l'accessibilité, ça a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étendre vers la fin de l'opération, mais les machines commencent à fonctionner maintenant bien vers la fin de l'opération. C'est pour cela que nous sommes en train de demander au bureau national de la CENI de porter les mêmes bénéfices qu'ils ont portés pour la prolongation du délai de l'opération de l'identification, comme c'était passé dans la zone opérationnelle 1 et dans la zone opérationnelle 2, pour permettre à rattraper tous les autres concitoyens, tous les autres compatriotes qui ne se sont pas encore fait enrôler. J'ai trouvé certaines cartes qui sont devenues illisibles aujourd'hui. Les cartes que la plupart de la population détiennent aujourd'hui, et ces cartes sont illisibles.
La province de Lomami, la chefferie des cantines dans le territoire de Lwilou est en deuil. Le grand chef Mathieu Kound Kabei Dial 4 est décédé samedi au siège de la chefferie à Wikong, un grand centre commercial qui accueille plusieurs opérateurs économiques en provenance des provinces de Lualaba, de la région du Grand Kassai et du Haut-Katanga. La chefferie des Incantines est le prolongement du peuple Rund du Katanga. Dans ce reportage, Esther Ndalafina nous présente l'historique de cette chefferie.
Le territoire de Lwilou est occupé par les Kanyok, les Luba et les Inkalintin, ainsi que d'autres tribus de souche Lunda, qui est une population de langue bantoue d'Afrique centrale et australe vivant dans le sud de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les provinces de Lualaba, du Kasaï central, de Kwango, de Lwilou, dans le nord de la Zambie et dans l'est de l'Angola. Ce territoire comprend trois chefferies, dont notamment celui des Kanyoka, de Mulundu, celui des Kachisungu et celui des Inkalintin, ainsi que le secteur de Kandakanda. Du point de vue culturel et linguistique, les Lunda ou Rund des Inkalintin sont proches de leurs voisins du Lualaba et Luba, avec lesquels ils ont des liens historiques depuis le mariage du prince Luba Chibind Irung avec la mythique reine Lunda Ruej, considérée comme la mère de la nation Lunda. Le siège de la chefferie, c'est Wikong, le centre le plus important du territoire. Il est le carrefour économique des voies qui conduisent vers Luisa, Kapanga, Kolwezi, Sandoa et Dilolo dans la province de Lualaba. En attendant l'aboutissement de la cérémonie de succession de pouvoir, le deuil du grand chef est observé à Kanintin, Poul Kipong, dans la cour de la chefferie, où un dispositif sécuritaire important est observé. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum, entame ce lundi une visite officielle de 48 heures au Bénin. Plusieurs membres de son gouvernement l'accompagnent. L'économie et les questions de sécurité sont à l'ordre du jour. Et puis Pyongyang a procédé hier dimanche au lancement de deux missiles de croisière stratégique depuis un sous-marin. Cette annonce des médias d'État nord-coréens intervient alors que débute ce lundi la plus grande manœuvre conjointe depuis 5 ans entre les armées sud-coréennes et américaines.
L'invité.
Au Kasaï oriental, le projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs mis à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi a été lancé la semaine dernière en Bujimaï. Le coordonnateur en explique l'importance ainsi que les critères de sélection des bénéficiaires de l'appui financier. Alexis Mangala, coordonnateur national du projet Transforme, est notre invité. Il s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour, monsieur Alexis Mangala. Transforme a lancé le lundi dernier son projet ici dans la ville de Mbujimaï. Brièvement, c'est quoi ce projet Transforme?
Bonjour. Pour maman journaliste, le projet Transforme, c'est le projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs, de mise à niveau des PME pour la création de l'emploi et la transformation économique de la RDC. Ça s'appelle en sigle Transforme.
Quelles sont les parties prenantes à ce projet?
Les parties prenantes à ce projet, on devrait le voir en 2 temps. Donc, il y a d'abord les bénéficiaires du projet. C'est les femmes entrepreneurs, les nouvelles PME, les PME établies et les institutions de microfinance et les coopératives d'épargne et de crédit. Ça, sont les bénéficiaires. Mais les parties prenantes du projet, c'est en fait toutes les structures qui composent l'écosystème entrepreneurial. Vous avez, par exemple, la FEC par sa commission PME, vous avez sa commission des femmes, vous avez la NADEC, vous avez la NAPI, la Banque Centrale, la Cellule Nationale des Recherches Financières, donc la CNAREF. Vous avez également toutes les structures qui appuient les femmes, qui les accompagnent, qui les encadrent, sont des parties prenantes au projet. Sans oublier évidemment aussi les autorités des provinces dans lesquelles s'exécute ce projet. Donc il y a un nombre important des institutions, des structures qui sont parties prenantes au projet, donc certains ministères en dehors du ministère des PME, par exemple, comme le ministère du Genre, est partie prenante au projet.
Au cours du lancement de ce projet, vous avez parlé des 300 millions de dollars disponibilisés par la Banque mondiale pour appuyer les femmes entrepreneurs, comme vous venez de dire, les nouvelles entreprises et les institutions dans 7 villes de la République démocratique du Congo. Comment seront répartis ces fonds?
D'abord, il faut préciser que ces fonds, c'est en fait le gouvernement de notre pays qui a sollicité et obtenu auprès de son partenaire technique et financier qui est la Banque mondiale, qui a obtenu ce fonds de 300 millions. Mais ces fonds de 300 millions ne sont pas répartis par ville. C'est une enveloppe globale qui concerne 7 villes du projet. Les 7 villes sont la ville de Kinshasa, la ville de Goma, de Bukavu, Bunia, Mbujimaï, Kananga et Goma. Ce sont les 7 villes. L'enveloppe n'est pas répartie par ville. Donc, il appartient à chaque ville, à chaque province qui s'organise mieux et c'est celle-là qui va rafler, si vous voulez, la mise. Donc, l'enveloppe n'est pas répartie par ville. L'enveloppe, si on peut dire, elle est nationale et concerne les 7 villes du projet.
Quels sont les critères pour accéder à cet appui financier?
Bon, les critères au niveau du projet sont d'abord au niveau des secteurs. On n'apporte pas des appuis à tous les secteurs. On apporte des appuis au secteur de l'agrotransformation, l'industrie légère, les services, à l'exclusion du commerce général et du commerce d'import-export. On peut dire que les vrais critères, en réalité, de ce que je viens de vous donner sont des critères d'éligibilité. Donc, il faut être dans un des secteurs que je viens de donner. Mais par contre, les critères de sélection seront définis par la firme qui mettra en œuvre cette opération-là en collaboration avec les membres de l'écosystème local. C'est eux qui vont définir concrètement les critères qui s'adaptent. Et c'est avec raison. Si on avait défini tous ces critères dans les documents du projet, on pourrait définir des critères qui ne tiennent pas compte des réalités locales. Donc l'écosystème entrepreneurial local a une grande responsabilité. C'est elle qui, en fonction des spécificités locales, pourra proposer, lors des ateliers qui seront organisés par la firme de mise en œuvre, pourra proposer ce que l'on peut retenir comme critère minimal pour pouvoir être sélectionné dans le cadre de ces appuis qu'offre le projet Transforme.
Quelle peut être la hauteur de cet appui par entreprise?
Je m'abstiendrai un peu d'avancer les chiffres. Je sais que dans le cas du PADEMPME, on a avancé des chiffres. Et puis les bénéficiaires se sont attachés à ces chiffres-là pour dire « Ah oui, on m'avait dit que j'aurais autant, mais ce n'est plus... » Non. En réalité, le montant prévu dans le cadre des appuis dépend du business plan, de l'évaluation qui en sera faite par le coach qui sera désigné par la firme de mise en œuvre.
Merci beaucoup, monsieur Alexis Mandala.
Et merci, madame la journaliste.
C'était notre invité, Alexis Mandala, coordonnateur national du projet Transform. Il s'entretenait depuis Mbujimayi avec Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.